Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous et tous mes voeux en ce début d'année, un début tout en fracas. Et d'abord au Moyen-Orient. Le 2 janvier dernier, un drone américain abattait à l'aéroport de Bagdad le général iranien Qassem Soleimani et son adjoint irakien. Voilà 9 jours donc que le monde et d'abord l'Europe suivent avec appréhension le choc frontal entre Donald Trump et le régime des ayatollahs. Choc des missiles d'abord. La nuit dernière, Téhéran a reconnu sa responsabilité dans la catastrophe de l'avion ukrainien. Choc des discours ensuite, chacun s'adressant d'abord à son opinion publique, soucieux de récolter les dividendes de l'escalade. En Iran, la déferlante patriotique vient à point nommé conforter un système qui n'hésitait pas, il y a quelques semaines, à tirer sur son peuple. Aux États-Unis, en campagne présidentielle, dans un pays véritablement coupé en deux, tant le personnage et sa politique divisent les Américains, Donald Trump, commandant en chef, cimente encore un peu plus sa base, sans convaincre de sa cohérence. Pour entretenir la flamme tout en maîtrisant la riposte, Téhéran promet de nouvelles frappes et encourage Bagdad à chasser les troupes américaines. Pour calmer le jeu et s'en extirper, Washington parle à la fois de dialogue et de nouvelles sanctions, pressant les Européens et l'OTAN de prendre davantage leur part du fardeau moyen-oriental. Qui sont donc les gagnants de ce duel asymétrique ? Vladimir Poutine, sans doute, maître des horloges locales, et Daesh, qui peut tranquillement réactiver ses cellules irakiennes, qui ne parvient toujours pas à définir une action commune alors que la menace de prolifération nucléaire se renforce, les Européens. Comment sortir désormais de cette crise protéiforme ? Comment peut-elle évoluer ? Quels risques, quels enjeux ? C'est ce que nous allons explorer ce matin avec vous, Pierre Grosser. Merci d'être là. Vous êtes historien et professeur à Sciences Po Paris. Clément Terme, chercheur lui aussi à Sciences Po, au CERI. Amélie Myriam Chély, vous êtes sociologue, spécialiste de l'Iran et des islams politiques au CADIS, à l'EHESS. Laurie Kenton, maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et nous aurons par téléphone tout à l'heure Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Pierre Grosser, jusqu'à quel point les rapports de force tels qu'on les observe au Moyen-Orient maintenant depuis des années, jusqu'à quel point, selon vous, ces rapports de force sont-ils bouleversés ou, si j'ose dire, simplement raidis, tendus davantage, mais pas fondamentalement changés?
Il n'y a pas effectivement de transformation profonde, d'abord parce que l'hostilité entre Américains et Iraniens, ça commence à être une histoire assez ancienne, puisque depuis 1979, il y a une obsession mutuelle des deux pays, l'un par rapport à l'autre, qu'il y a eu plusieurs fois, et notamment depuis que M. Trump est au pouvoir, un certain nombre d'incidents qui ont posé des problèmes. Par exemple, on se souvient qu'encore en septembre dernier, avec des tirs sur des installations pétrolières saoudiennes, on s'est posé la question du type d'escalade qu'il pouvait y avoir. On se souvient du rôle du président français pendant l'Assemblée générale des Nations unies pour essayer justement de mener à cette désescalade qui véritablement est le terme que utilisent les Européens tous les jours. Encore là, il y a eu un Conseil européen
désescalade. C'est plus une incantation qu'autre chose.
C'est plus une incantation. D'un autre côté, on voit pas des formes d'escalade tout à fait terribles comme on aurait pu l'imaginer au départ quand il y a eu cette frappe-là. Le seul problème, c'est qu'on a l'impression que de toute façon, il n'y a aucune solution qui soit convenable pour les Européens et d'ailleurs pour une partie de l'opinion internationale. C'est-à-dire que d'un côté, quand les Américains ne réagissent pas, les alliés disent « bah voilà, c'est la faiblesse, ils sont pas bons, ils se désengagent du Moyen-Orient, etc. » Et quand il y a une réplique ou attention, c'est escalade.
Donc, il oui, y a aucune bonne. On se plaint toujours.
Ah ben nous, on se plaint toujours d'une certaine façon parce qu'on est quand même, on est devenu, les Européens sont quand même devenus des puissances du statu quo et depuis très longtemps d'ailleurs. Hein, aussi pendant la guerre froide, on aimait bien quand il y avait la détente entre l'Est et l'Ouest et qu'on pouvait faire un peu de commerce avec les pays de l'Est et que avec l'Est et que finalement ce qui se passait dans l'Union soviétique en Europe de l'Est était finalement relativement secondaire pour nous.
Laurie Kenton, Pierre Grosset rappelait donc 40 ans véritablement de tensions et d'obsessions réciproques entre Washington et Téhéran. Et on a bien vu que dans la décision de Donald Trump il y a quelques jours, qui tranchait effectivement avec la passivité américaine à l'automne dernier, malgré les attaques contre les sites saoudiens, malgré ce drone américain abattu, où Trump à la dernière minute a dit non, ben finalement on ne fait rien. Là, semble-t-il, c'est véritablement le souvenir de 79,
exactement,
de l'ambassade américaine à Téhéran, qui a déclenché chez Donald Trump, devant les images de l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad, c'est ce qui a déclenché, semble-t-il, sa décision.
Mais il y a un écho qui est frappant, c'est que Donald Trump a fait campagne sur un slogan bien connu, « Make America Great Again », qui avait été emprunté à un certain Ronald Reagan. Et Ronald Reagan avait fait sa campagne en 80 contre Jimmy Carter, qui était le président de la faiblesse, notamment contre l'Iran. Et donc Trump voulait être une sorte de nouveau Reagan contre un Obama qui était l'écho de Carter. Donc il y avait cette rhétorique de la force et de la grandeur retrouvée contre un président faible. Et donc l'obsession...
Et surtout en année présidentielle, ce qui était... C'est le cas de Carter qui, là, du coup, a perdu.
Bien sûr. Et l'obsession de Trump, c'est toujours d'être le contraire d'Obama, l'anti-Obama. Il a détricoté toutes les réalisations législatives d'Obama pendant tout le début de son mandat. Et là, en politique étrangère, il est toujours sur le côté un petit peu disruptif, mais il est aussi dans le côté « je m'inscris en faux contre ce qui pourrait être vu comme du déclin, de la faiblesse ». Et le retrait ou le désengagement n'est pas forcément une forme de faiblesse. Et c'est là qu'il y a une espèce d'ambiguïté où Trump rejoint un certain nombre des aspirations d'Obama.
Avec toujours cette promesse de retirer les troupes du Moyen-Orient alors qu'il ne cesse d'en envoyer davantage.
Alors, ce qu'il faut distinguer, c'est le long terme, c'est-à-dire un désengagement sur la durée et des mobilisations de troupes qui sont plutôt présentées comme à court terme, qui sont plutôt présentées comme de la tactique plutôt que de la stratégie. Et donc, après, ce qu'il faut voir, c'est non pas forcément la cohérence du discours, mais la perception dans l'électorat. Et Trump a été élu plutôt sur un programme de désengagement, donc on pourrait croire que cette mobilisation de troupes va gêner son électorat. Et quand on regarde son électorat, les gens qui se disent républicains et les gens qui disent j'ai voté Trump en 2016, et ben là on retrouve que pas du tout, ils sont très contents, un, des frappes, c'est justifié, deux, il va y avoir des troupes envoyées au Moyen-Orient, est-ce que ça vous pose un problème? Pas du tout, au contraire.
Et là, on se dit que avec une campagne présidentielle qui a déjà commencé, mais qui est très très longue, l'élection n'intervenant qu'au mois de novembre, Donald Trump a quand même perdu la face vis-à-vis du jeune Kim Jong-un en Corée du Nord. Il y a les atermoiements avec la Chine, semble-t-il. Hier, le président américain disait que finalement, il n'était pas tellement pressé de conclure des accords commerciaux. Et puis, il y a la procédure de destitution qui est enclenchée, même si on en connaît l'issue. Donc, jusqu'à quel point est-ce que le rôle, la posture et cette action en tant que commandant en chef, non seulement consolide sa propre base, mais rassure au-delà de son camp l'opinion publique américaine? Est-ce que ça bouge?
Ça permet de marquer des points, ça permet de limiter les dégâts. C'est-à-dire que ça va pas forcément bouger, mais c'est ça qui est important également, c'est que justement ça ne bouge pas, on limite les dégâts, on limite la casse, on limite un effritement éventuel, même si ce qu'on a remarqué, c'est que, évidemment, vous disiez en tout début que l'Amérique était coupée en deux, c'est vrai et c'est à relativiser, c'est-à-dire qu'il y a bien deux Amériques, une Amérique qui est très démocrate, camper sur ses positions pour qui Trump est le mal absolu et qui ne bougera pas, et une Amérique républicaine pour qui Trump est un sauveur, envoyé de Dieu, etc., et qui a raison. Mais il y a aussi toute une Amérique du milieu qui est moins informée, les indépendants, moins informée que les démocrates et les républicains. Donc, la façon dont ils vont filtrer l'information va être différente. Ils vont avoir des perceptions qui vont être beaucoup plus superficielles. Et c'est eux qui feront la différence en novembre. L'électorat républicain, il sera mobilisé. Les républicains font ça tous les jours. C'est pas vraiment eux qui vont faire basculer l'élection. Ce sont les indépendants moins informés.
Mais donc on peut penser que l'Iran va devenir pour cet électorat flou, au fond, une mesure de l'efficacité en termes de sécurité que peut proposer un Trump réélu. Autrement dit, est-ce que la politique étrangère va peser davantage qu'elle n'a jamais pesé sur les enjeux de cette présidentielle?
Globalement, la politique étrangère pèse peu. Tous les spécialistes de politique étrangère le déplorent. C'est finalement toujours les questions économiques et les questions intérieures, les questions de chômage, d'emploi, etc.
Comme partout, d'ailleurs.
Et ça pèse quand c'est des menaces directes, type terrorisme, ce genre de choses. Finalement, ça pèse assez peu. Ça pèse en filigrane, ça pèse en toile de fond. C'est-à-dire, est-ce que Trump est véritablement un leader fort, notamment qui peut nous protéger, c'est très important dans l'imaginaire, contre des menaces en politique étrangère, oui ou non. Et après, il y a la perception différenciée, c'est-à-dire, est-ce que Trump est plus à même que le démocrate ou la démocrate qui sortira de la primaire, de nous protéger? Parce que ça va être, pour l'instant, c'est quelque chose d'assez large, mais ça va se réduire à un choix entre deux personnes sur ces questions-là. Et là, on est encore très loin de ça.
Clément Terme, spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient, je vous pose la même question qu'à Pierre Grosser tout à l'heure. Jusqu'à quel point, selon vous, l'escalade réelle de ces derniers jours représente un bouleversement ou simplement, si j'ose dire, un raidissement de ce duel américano-iranien?
Oui, je pense que c'est le problème du risque. C'est-à-dire qu'on a vu l'incompétence des Pasdaran, de l'armée iranienne, quand ils ont abattu l'avion ukrainien.
Oui, alors là, je vois à l'instant une dépêche de l'AFP. Donc, le commandant des forces aérospatiales des gardiens de la Révolution. Donc, il est important de rappeler que ce sont eux qui ont la maîtrise de ce type d'armement. Donc, il assume l'entière responsabilité de la destruction de l'avion ukrainien et présente ses excuses à la nation, donc à la nation iranienne.
Oui, donc vous pouvez imaginer que si les missiles qui ont été tirés sur la base américaine en Irak n'avaient pas été parfaitement précis, on aurait pu avoir une escalade militaire. Donc, il faut...
Mais ils ont été précis et il n'y a pas eu de morts américains.
Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu de la chance. C'est important parce que souvent, a posteriori, on relie l'événement et on dit tout s'est bien passé, les tensions, ouais, ça vérifie notre hypothèse que personne ne veut la guerre. Mais on oublie la part de l'imprévisible. Et on voit cet avion est là pour nous rappeler qu'un climat de tension militaire aussi fort entre l'Iran et les États-Unis a déjà des conséquences pour la population civile iranienne. Les morts civiles de cet avion a aussi des
176 morts.
Voilà, les manifestations qui ont été organisées aussi à Kerman en l'honneur du général ont produit aussi quelques dizaines de morts. Donc il y a déjà un coût humain en Iran important. Donc là, il y a la vengeance entre guillemets proposée par le guide suprême. Il a évoqué une gifle dans la face des États-Unis, mais je pense qu'il y a quand même un mécontentement très grand en Iran face à cette réaction, même s'il y a eu un soulagement sur le moment du fait qu'aucun soldat américain n'a été tué et qu'il n'y a pas eu d'escalade militaire. Donc il faut voir que là, on est quand même dans cette situation de risque. Il y a des compagnies aériennes qui ont interdit le survol de l'Irak et de l'Iran. Il n'y a pas de modification fondamentale pour l'instant au niveau des investissements commerciaux de l'autre côté, sur la rive arabe du Golfe Persique. Mais l'économie régionale vit avec ce risque géopolitique. On l'a vu lors de la privatisation de Saudi Aramco, par exemple, où on n'a pas eu de place boursière occidentale qui a voulu prendre le risque finalement.
Et le cours d'Aramco a baissé.
Voilà, et la bourse de Riyad a baissé, la bourse de Téhéran a baissé. Donc il y a déjà quand même des signaux économiques assez importants. Et en cas d'escalade, il y a un risque non seulement pour l'Iran, mais pour l'ensemble de la région. Après, est-ce que les acteurs eux-mêmes ont intérêt à l'escalade? Je pense que non, même si l'opinion peut-être de l'électorat de Donald Trump pour l'instant soutient le retour des troupes américaines. Mais en cas de conflit, ce soutien risque de s'évaporer et une guerre pourrait jouer un rôle fondamental dans l'élection américaine. Donc il faut rester très prudent et espérer que... Parce que les sanctions, le problème, là, le président présente, Trump présente les sanctions comme l'alternative à la guerre.
Avec de nouvelles sanctions,
voilà,
hein,
encore
qui visent
plus...
8 responsables iraniens et un secteur très précis qui est celui de l'acier. Et donc, c'est aussi par ricochet un embargo ou encore plus ferme vis-à-vis des entreprises étrangères.
Et cette escalade économique, en fait, c'est elle qui est responsable des tensions militaires. C'est le contraire, en fait. C'est pas des sanctions qui seraient une alternative à la guerre. C'est des sanctions qui conduisent aux tensions. Parce que l'Iran, la République islamique, va jouer sa survie au cours des prochains mois du fait qu'elle peut pas exporter son pétrole de manière normale. Elle exporte moins de 400 000 barils le jour. Et ça, c'est un casus belli pour la République islamique. Donc peut-être.
Avec une économie exsangue et une population
mécontente.
En souffrance qui...
Voilà. Et l'appauvrissement et une souffrance majeure et le risque de destruction de l'Iran. Donc ce qu'on a vu lors des manifestations, c'est pas tellement une adhésion massive au régime. C'est juste la peur de l'effondrement du pays. Donc c'est présenté souvent comme du patriotisme, mais pas vraiment. C'est simplement un message qui est envoyé à l'extérieur de la peur d'un effondrement du pays, de la disparition de l'Iran. Mais dès que le facteur géopolitique se cache un peu ou est en recul, on voit la volonté de changement de la société qui réapparaît. Et là, il y a un véritable patriotisme économique, une volonté de normalisation des relations vis-à-vis de l'extérieur. Et la République islamique ne peut pas proposer ça. Donc il y a un blocage à l'intérieur pour la République islamique et un blocage à l'extérieur parce que la confrontation régionale avec les États-Unis conduit à l'appauvrissement du pays. Donc ils sont bloqués dans un cycle escalade avec les États-Unis au niveau régional et impératif de trouver un compromis pour l'économie.
Mais on a bien vu, et c'était le rôle joué par le général Soleimani, on a bien vu à quel point le régime a toujours présenté son emprise régionale et ce duel avec les États-Unis sur ce plan-là comme la clé de la sécurité nationale. Donc liant en quelque sorte cet enjeu géopolitique à la survie du pays.
Oui, les Iraniens sont pris en otage, en fait, pour le dire très clairement, par le régime. Ils ont à choisir entre le développement socio-économique et la sécurité. Seulement, la population est intelligente et elle veut à la fois le développement économique et la sécurité. Elle ne veut pas de ce jeu à somme nulle. Maintenant, le fait que quand il y a une tension militaire, c'est un game changer en Iran, comme ça peut l'être aux États-Unis. Et là, évidemment, les conséquences d'une guerre seraient immenses pour l'Iran, beaucoup plus que pour les États-Unis, qui sont loin de la région quand même. Et c'est pour ça que l'Iran a cette idée de créer un climat psychologique à l'extérieur pour... ils ne peuvent pas obtenir la victoire économique. Ils ne peuvent pas obtenir la victoire militaire. La seule victoire qu'ils peuvent avoir, c'est politique. C'est d'obtenir le départ de certaines troupes américaines, peut-être d'Irak. Mais même l'objectif qu'ils se sont fixé d'un départ des troupes américaines de l'ensemble de la région est irréaliste. Donc ils vont travailler leurs alliés. Et ce réseau sécuritaire va servir non pas à assurer la stabilité de l'Iran, mais à assurer la survie du système et à sauver la face dans cette confrontation qui est inégale finalement avec les États-Unis.
Amélie Myriam Chélie, s'agissant des rapports de force internes en Iran, entre ce qu'on peut appeler les élites politiques et financières, d'un côté, les gardiens de la révolution, de l'autre. Jusqu'à quel point est-ce que ces tensions-là, dont on voit les rebondissements, même si la réalité reste très opaque, jusqu'à quel point est-ce que la disparition de Soleimani modifie ces rapports de force internes?
Alors, il n'y a pas forcément, d'une part, une élite financière et politique, et d'autre part, les gardiens de la Révolution. Il ne faut pas oublier que les gardiens de la Révolution sont aussi une puissance financière et de premier ordre. Les gardiens de la Révolution se sont finalement introduits dans l'économie iranienne en devenant de grands propriétaires terriens, en ayant un certain nombre d'épargnes de marché du pays, en ayant par exemple, en se mettant par exemple dans la pharmacie ou dans la chirurgie oculaire. Bref, ils sont aussi une puissance financière. C'est bien plutôt au niveau d'une classe politique gouvernementale et de l'autre côté des gardiens de la Révolution que des fois on peut observer des dissonances discursives. Alors, ces dissonances discursives, elles sont parfois entendues, c'est-à-dire que, par exemple, on l'a vu dans le cadre du conflit syrien, parfois le vocable utilisé et les tournures de phrases utilisées par la classe politique gouvernementale respectaient tout à fait les normes liées au dialogue international, tandis que la presse liée aux gardiens de la Révolution était beaucoup plus en contradiction justement avec cette normalisation et beaucoup plus véhémente, beaucoup plus idéologique en fait tout bonnement. Mais c'était entendu. Mais il y a aussi des moments où cette discordance discursive n'est pas du tout entendue. Et il y a effectivement de véritables contradictions, voire des rapports conflictuels. Alors effectivement, la mort de Qassem Soleimani aura eu un certain nombre de répercussions. On le voit, on a parlé tout à l'heure de ce patriotisme qui n'était pas forcément à observer. C'est vrai, c'est plutôt à l'extérieur qu'il faut voir un, je ne sais pas si on peut appeler ça un patriotisme puisque c'est à l'extérieur, mais l'Iran depuis une décennie, voire plus, arrive à lever des troupes à l'extérieur et ne fait plus du tout recette idéologiquement à l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'en règle générale, Qassem Soleimani est plutôt vu comme un héros à l'extérieur du pays. Même si, bien évidemment, à l'intérieur, vous avez une marge de la population qui est tout à fait acquise à la cause des gardiens de la Révolution.
Mais là, il devient un martyr. Donc, il devient un martyr. Donc, il sert aussi à la, si j'ose dire, à la com, enfin à la communication du régime vis-à-vis de sa propre population et vis-à-vis des populations chiites du monde arabe.
Alors, à l'intérieur du pays, la population qui n'était pas acquise à cette cause a quand même vu en Qassem Soleimani une culture, plus que finalement un exécutant ou un porte-parole, à un seul égard. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de la population qui n'aime pas Qassem Soleimani en tant qu'exécutant du maintien de l'ordre en Syrie, mais par contre qui reconnaissent à Qassem Soleimani le fait d'avoir été celui qui a pu repousser Daesh et donc sanctuariser sécuritairement le pays.
Alors parlons de son successeur, parce que il ne faut pas non plus personnalisé à outrance. C'est un système où son adjoint, si j'ai bien compris, est désormais le patron. Khani, c'est ça?
Ismail Khani a toujours été là. Il a été d'ailleurs à l'initiative d'un grand nombre de définitions de lignes politiques à l'extérieur. Et à plusieurs égards, Qassem Soleimani aura été un diplomate et un exécutant, notamment pour ce qui concerne l'Irak et un peu l'Afghanistan. C'était plus du maintien de l'ordre, encore une fois, pour ce qui concernait le conflit syrien. Ismail Khani est beaucoup moins dans cette volonté de représenter une image. On sait par exemple que Qassem Soleimani avait été notamment beaucoup apprécié par une partie de la population parce qu'il venait veiller les soldats blessés ou rendre visite aux familles. Donc il avait en fait une sorte d'aura qui était tout à fait particulière.
Ismail Khani, un vrai charisme
aussi. Ismail Khani est plutôt un stratège. Il l'était aussi, attention, hein, Soleimani l'était aussi, mais c'est beaucoup plus un durcissement de la volonté de mettre à la tête quelqu'un qui a une image exclusivement liée à la stratégie.
Bruno Tertrais, merci d'être avec nous par téléphone. À vous aussi, la même question, jusqu'à quel point, selon vous, ce duel américano-iranien que l'on observe depuis quelques jours, dont on observe l'escalade, est-ce que c'est un bouleversement ou un raidissement des rapports de force?
Il y a un troisième scénario, c'est le scénario de l'apaisement. Je ne sais pas exactement lequel se réalisera, mais on peut aussi imaginer, même si ce n'est pas le scénario le plus probable, que le coup porté à Soleimani, qui a certainement surpris les dirigeants iraniens, conduise à une sorte de révision de la stratégie iranienne qui était plutôt celle de la tension depuis près d'un an. Et parallèlement, on peut imaginer un président Trump qui se dit « Bon, il vaut mieux que la situation vis-à-vis de l'Iran se calme parce que maintenant, on va entrer dans la campagne électorale et que je n'ai pas besoin d'une guerre supplémentaire. » Donc, c'est un troisième scénario possible. C'était assez difficile à dire. En tout cas, je pense qu'en l'absence d'incidents supplémentaires provoqués par l'une ou l'autre des parties ou un accident stratégique quelconque, ce scénario reste possible.
On voit néanmoins que sur un autre plan qui concerne l'ensemble des acteurs, depuis le 5 janvier, Téhéran a annoncé le régime n'observerait plus les restrictions en matière d'enrichissement d'uranium prévues par l'accord de 2015. Néanmoins, les inspecteurs de l'agence de Vienne, si j'ai bien compris, sont toujours en Iran et poursuivent leur travail. Jusqu'à quel point, selon vous, l'accord nucléaire est-il directement impacté par cet engrenage ?
Aujourd'hui, il ne l'est pas du tout, puisque la décision, si j'ai bien compris ce qui s'est passé, la décision qui a été prise par l'Iran, tout à fait conforme au calendrier qu'avait annoncé Téhéran là-dessus. C'est une sorte d'escalade graduelle, mais les décisions annoncées le 5 janvier sont tout à fait conformes avec ce qui était annoncé, et donc je ne crois pas qu'elles aient été impactées directement par l'événement d'il y a 10 jours.
Ce qui change néanmoins, c'est le discours américain. On a vu que Donald Trump souhaite que les Européens, qui, comme le rappelait Pierre Grosser, persistent à demander que cet accord soit renforcé et sans doute élargi. Donald Trump, maintenant, demande aux Européens d'être plus actifs et demande à l'OTAN de jouer un rôle beaucoup plus évident au Moyen-Orient.
Oui, alors quelques éléments là-dessus. D'abord, bien entendu, il ne faut jamais trop accorder d'importance à une déclaration non préparée et intempestive de Donald Trump. Si ça se trouve, la semaine prochaine, il pensera le contraire, il dira le contraire. Mais c'est assez paradoxal, voire ironique, d'entendre Donald Trump souhaiter une implication plus forte de l'OTAN au Moyen-Orient, au moment même où, du fait des actions américaines, l'OTAN a dû suspendre sa mission d'assistance à l'armée irakienne parce que les forces américaines sont trop occupées à se protéger elles-mêmes et à protéger les biens et les forces et les bases américaines. Donc c'est assez piquant. J'ai du mal à voir l'OTAN s'impliquer aujourd'hui davantage au Moyen-Orient, davantage que c'était le cas avant les événements d'il y a 10 jours. Il n'y a pas de consensus au sein de l'Alliance pour cela. Nombre de pays européens estiment que ce serait se détourner de la mission principale de défense collective. Donc je ne vois pas très bien ce que cela voudrait dire, même si Donald Trump pourrait trouver, après tout, une oreille attentive auprès d'Emmanuel Macron, puisque celui-ci souhaite que l'Alliance, l'OTAN, en tant qu'instrument militaire, se préoccupe davantage du terrorisme.
Pierre Grosser, ce serait, selon vous, une manière d'éviter à l'OTAN l'état de mort cérébrale dont le président français faisait le diagnostic il y a quelques semaines ?
Non, je pense pas que de s'investir au Moyen-Orient, ça soit une façon de redonner une mission à l'OTAN. Notamment pour les Polonais ou les Baltes, la mission de l'OTAN, c'est sûrement pas d'aller au Moyen-Orient. Je crois qu'ils ont d'autres préoccupations. Surtout, ce qui est assez paradoxal, finalement, avec ce président Trump, c'est que d'un côté, il dit il faudrait que ma porte est ouverte pour discuter avec les Iraniens ou voilà messieurs les Européens aidez-nous soyez avec nous et prenez des responsabilités pour le Moyen-Orient. Or il a quand même cassé un accord qui avait été signé. On a l'impression que avec la Corée du Nord, les choses n'ont pas vraiment avancé. On ne sait pas du tout dans quelle situation en 2020 les relations et le programme nucléaire peut changer en Corée du Nord. Donc finalement, la parole de Trump, on ne sait pas tellement ce que ça veut dire face à un ennemi et avec des amis. On n'est pas tellement sûr non plus de la parole de Trump, puisque sur l'OTAN, il a quand même un discours qui est quand même extrêmement, extrêmement critique. Donc, le problème de ce personnage, quand même, c'est qu'à partir du moment où il a très largement mis en cause la parole de son prédécesseur, les engagements de son prédécesseur, voire sur l'OTAN de tous ses prédécesseurs, en tout cas jusqu'au président Truman, comment faire accord avec lui? Comment discuter avec lui? Et c'est quand même, je crois, un des problèmes majeurs du président Trump aujourd'hui.
Il y a une constante néanmoins, une cohérence dans les positions de Donald Trump et c'est évidemment vis-à-vis d'Israël. On sait qu'il y a eu une très longue conversation téléphonique, semble-t-il, hier ou avant-hier, entre lui et Benjamin Netanyahou, lequel est quand même très très préoccupé par sa propre situation politique. Jusqu'à quel point est-ce qu'Israël, qui est alors directement sous la menace des missiles du Hezbollah, avec Hassan Nasrallah, qui est maintenant que Soleimani a disparu, sans doute le personnage le plus puissant dans l'arc chiite que Clément Terme évoquait tout à l'heure, jusqu'à quel point, Pierre Grosser, est-ce que Israël reste pour Washington l'enjeu central?
Ben c'est un enjeu absolument central, ça, à la fois pour le personnage Trump, qui lui-même n'a pas une fascination pour Israël, comme peuvent l'avoir un certain nombre de dans son entourage, hein, que ça soit
à commencer par son gendre,
que ce soit son gendre, que ce soit Mike Pompeo aussi, enfin voilà, il y a donc en gros le ministre des Affaires étrangères. Donc bien entendu, c'est un facteur qui est très important, et je pense dans pratiquement toutes les actions américaines au Moyen-Orient, le facteur israélien est tout à fait important. Et en fait, c'est ça la grande différence avec Obama. On a eu l'impression qu'Obama a voulu en partie faire une certaine forme de désengagement stratégique du Moyen-Orient en jouant une forme d'équilibre des puissances, c'est-à-dire de ne pas s'aligner complètement sur Israël et l'Arabie Saoudite, donc se rapprocher un peu de l'Iran et créer une espèce d'équilibre un peu à l'ancienne, comme les Britanniques faisaient ça en Europe à la veille de 14. Bon, donc cette espèce d'équilibre qui permettrait une certaine forme de désengagement américain. Or, quand Trump arrive, il fait plus du tout ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au contraire, il soutient complètement l'Arabie Saoudite, puisque ça a été son premier voyage quand même, ce qu'il faut toujours rappeler.
Avec la danse du sabre,
notamment la décoration, enfin bref,
tout ce qu'il aime.
Plus Israël. Et donc, il y a eu effectivement des discussions entre l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe et Israël, mais il y a eu aussi, et c'est ça qui est assez étonnant dans cette frappe américaine, c'est qu'au même moment, on avait quand même visiblement des discussions entre les Saoudiens et les pays du Golfe et l'Iran. Est-ce qu'il n'a pas voulu...
Les Saoudiens qui avaient été très très déçus de la passivité.
Notamment parce qu'il avait été déçu, et sans doute pour d'autres raisons aussi, à un certain nombre de difficultés économiques, etc. Et donc il a finalement, d'une certaine façon, recréé les lignes. Et donc c'est ce qui rend difficile finalement le retrait américain du Moyen-Orient, ce qu'Obama pouvait faire par ce jeu d'équilibre.
Il y a un acteur majeur dont on n'a pas encore parlé, Hamda Mostafavi, bonjour, vous êtes rédactrice en chef à Courrier International, il s'agit de Vladimir Poutine. On sait que Angela Merkel est aujourd'hui à Moscou, on peut d'ailleurs regretter qu'elle n'ait pas souhaité se faire accompagner par un représentant de l'Union européenne, à commencer par Josep Borrell, qui est le nouveau représentant pour la politique extérieure. Vu de Moscou et lu dans la presse russe, quelle est l'analyse donnée de la situation?
Alors, pour la presse russe, notamment pour le quotidien Vizgliad, qui est un journal assez proche des positions du Kremlin, les événements des derniers jours confortent Vladimir Poutine dans un rôle de pacificateur au Moyen-Orient, je cite la presse, par opposition à Donald Trump, qui, selon le journal, ne déclenche des crises que pour détourner l'attention de la procédure d'impeachment lancée contre lui. Je cite Vizgliad, les intérêts de la Russie dans la région sont liés à la pacification et non à la déstabilisation. Poutine est le seul dirigeant apte à discuter avec tous les acteurs de la région, la Turquie, l'Iran, la Syrie ou encore Israël, dit le journal. Et après les efforts investis en Syrie, où la Russie a, dit-il, permis de rétablir la paix, Poutine est là pour empêcher le chaos et faire en sorte que le monde ne bascule pas dans la Troisième Guerre mondiale. Pour ce quotidien, Trump ne veut pas la guerre, l'Iran ne veut pas la guerre et la Russie de Vladimir Poutine est là pour qu'on n'en arrive pas là.
Mais que les médias officiels, évidemment, vantent le rôle de Vladimir Poutine, c'est pas une surprise, mais on a l'impression quand même que globalement, Poutine sort renforcé de la crise.
Oui, c'est ce que...
Et même dans les réseaux sociaux russes.
Tout à fait. C'est ce que dit aussi, par exemple, le quotidien anglophone et indépendant de Moscou, le Moscow Times, qui dit « S'il est difficile de savoir qui de Washington ou de Téhéran sortira vainqueur de cette séquence, Poutine, lui, a toutes les raisons d'être satisfait, car cela conforte aussi son discours, qui consiste à dire que c'est l'Amérique le pouvoir arrogant dans le monde. » Le quotidien officiel russe Rossiyskaya Gazeta estime de son côté que même si les Américains ne sont pas encore totalement partis d'Irak, notamment, ils ont géopolitiquement abandonné le Moyen-Orient. La Russie, elle, a fait son grand retour dans la région ces dernières années. Et la Syrie, l'Iran et l'Irak sont dans sa sphère d'influence directe et dans une proximité même géographique, note le journal. D'ailleurs, l'Iran est candidat, avec le soutien de Moscou, pour rentrer dans le groupe de Shanghai, une organisation intergouvernementale asiatique dominée par la Russie et par la Chine. Là où les États-Unis excluent et ne peuvent plus dialoguer, dit Rossiyskaya Gazeta, Poutine, lui, choisit la voie du dialogue et de la négociation, et c'est par lui que les choses peuvent se débloquer, notamment sur l'accord nucléaire iranien. Un autre journal, le journal Izvestia, appelle d'ailleurs à tout faire pour sauver cet accord sur le nucléaire et insiste notamment sur le rôle des Européens dans ce domaine. Interrogé par le journal, un analyste de l'Institut d'État des Relations Internationales estime qu'il est trop tôt pour décréter la mort de l'accord. Selon lui, le volet essentiel du traité sur la coopération de l'Iran avec l'AIEA est toujours valide. La République islamique continue de laisser entrer les experts de l'AIEA sur tous ces sites, ce qui signifie qu'elle n'a pas l'intention de se doter de l'arme nucléaire dans l'immédiat, croit savoir le quotidien russe.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Okrent.
Clément Terme, je rappelle que vous êtes chercheur au CERI de Sciences Po à Paris, spécialiste de l'Iran et du monde arabe. Jusqu'à quel point est-ce que l'arc chiite que le régime des ayatollahs a réussi à installer, c'est une prouesse, je crois, depuis les Abbassides, ils n'avaient jamais atteint la Méditerranée, et c'est fait maintenant depuis plusieurs années. Jusqu'à quel point est-ce que l'emprise de Téhéran dépend plus que jamais du Hezbollah libanais?
Oui, il y a ce rapport de force dans ce, j'appelle ça le réseau d'influence économique, idéologique et sécuritaire de l'Iran, parce que l'Iran ne fonde pas ce réseau fondamentalement sur la question religieuse, puisque la majorité des chiites arabes sont opposés au leadership religieux de Khamenei, du guide suprême iranien. Ce sont plutôt des intérêts idéologiques, cette idée finalement que l'ennemi est Israël. Donc c'est un peu le fondement de la politique de Roménie, et c'est la différence de ce que faisait le Shah d'Iran, qui lui se tournait plutôt vers l'océan Indien. Mais l'apogée de la puissance iranienne, c'est les années 70, c'est à l'époque du Shah, c'est pas la République islamique. Parce que ce réseau d'influence, on l'a dit tout à l'heure, pose des problèmes économiques à l'intérieur du pays. Donc oui,
enfin,
alors...
Néanmoins, il est oui, tout oui. puissant, et on le voit donc à l'œuvre au Liban, en Syrie, en Irak.
Il est très contesté sur le plan populaire. Il faut bien comprendre que la contestation populaire à l'intérieur, maintenant, s'accompagne depuis l'automne, et c'est ça la nouveauté, c'est cette convergence des luttes entre les sociétés arabes et la société iranienne, d'une contestation au Liban avec la révolution libanaise, en Irak avec le mouvement social irakien, qui demande la fin de l'ingérence des pays étrangers, à la fois l'Iran et les États-Unis.
Avec des manifestations anti-iraniennes.
Tout à fait, et ça c'est très nouveau. Donc, même si cette convergence des luttes reste au niveau des revendications, des aspirations de la société, il n'y a pas une organisation commune, et à l'inverse par contre, et c'est là où il se pose un problème pour la République islamique, c'est qu'il y a une dimension régionale de la répression. On voit par exemple en Irak des snipers, on en a vu en Iran également. Donc dans les techniques de répression, on a des points communs, et on a, et Rassem Soleimani participait à cette répression. Donc il faut bien voir que là, on a une difficulté en termes d'image pour la République islamique, qui ne se limite pas à la disparition du général, mais qui va aussi à l'encontre des aspirations de ces sociétés, cette demande de sécularisme qui existe au-delà de l'Iran dans le monde arabe aujourd'hui. Donc, et même dans le Golfe Persique.
Des exigences ou des espérances assez semblables.
Oui, et l'Iran ne propose pas un modèle positif en ce sens. L'Iran n'est pas un modèle de développement économique transparent et technocratique. Donc, ce que propose l'Iran ne correspond pas, et le Hezbollah est contesté aujourd'hui. Ça n'empêche pas que les liens sécuritaires existent et sont déterminants. Mais l'Iran dépend plus de la Russie que du réseau quand même. Donc la Russie joue un rôle majeur aujourd'hui. Il y a un débat à Moscou dans la presse sur l'opportunité pour la Russie d'accorder un prêt de 5 milliards de dollars à la République islamique. Une idée qui a été évoquée par les autorités russes au lendemain des manifestations en Iran pour préserver cette sphère d'influence, parce que la Russie peut perdre l'Iran. Donc il y a un vrai risque en cas de modification de la donne au niveau régional pour la Russie. C'est plutôt la Russie, la puissance du statu quo au Moyen-Orient depuis la crise syrienne de 2011. Donc là, on est face à un défi pour l'Iran d'articuler à la fois cette relation avec la Russie, la Chine aussi.
Qui est son premier partenaire économique
et qui a pas intérêt
et qui achète son pétrole.
Oui, exactement, et qui n'a très peu de pétrole, mais C'est d'autant plus important à un moment où l'Iran n'en exporte presque plus, a intérêt à la stabilité, notamment la liberté de navigation. On a vu les exercices communs maritimes entre l'Iran, la Russie et la Chine, qui était quand même un message envoyé à l'OTAN et aux États-Unis. Donc à un moment donné, Trump a des discours sur le retour de l'OTAN dans la région, et on voit ces trois pays qui ont peur du chaos constructif, en fait, qui a été évoqué notamment sous l'administration Bush Junior, et dont on voit les effets encore jusqu'à aujourd'hui.
Précisément, Laurie Kenton, spécialiste des États-Unis, les États-Unis sont en campagne électorale. Donc, les primaires, le premier caucus, c'est l'Iowa, donc c'est tout début février. La semaine prochaine, la patronne des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, va déclencher en fait la procédure de destitution en envoyant au Sénat les articles qui, selon les démocrates, devraient conduire à la destitution de Donald Trump. Quel impact ce chaos international a-t-il sur le camp démocrate, que l'on voit très occupé finalement à des manœuvres qui peuvent paraître politiciennes au regard des enjeux?
Alors, le camp démocrate, de toute façon, il est relativement uni sur la perception de Trump, qui est globalement assez négatif quand même, et toutes les actions, il y a pas un débat énorme, c'est-à-dire que dans les débats, dans la campagne, on parle très peu finalement de politique étrangère, sauf pour dire qu'il faut absolument élire un démocrate parce que Trump est dangereux, mais ça va pas beaucoup plus loin. Le seul débat qui peut y avoir, c'est qui sera le plus à même de conduire la politique étrangère américaine après Trump, et donc le seul débat, c'est en gros Sanders qui reproche à Biden d'avoir voté la guerre en Irak en 2002, et donc
Biden, l'ancien
Joe Biden,
si devant, si j'ose dire, vice-président de Barack Obama, mais Biden qui met en avant son expérience internationale.
Bien sûr, et de la même manière qu'Hillary Clinton l'avait fait en 2016 en disant qu'elle connaissait tous les chefs d'État, qu'elle les appelait par leur prénom, etc. Bon, ça a pas été forcément décisif, mais les Américains demandent à être rassurés sur un certain nombre de dossiers. Certains pensent que Trump est un danger, d'autres pensent, alors pas dans le camp démocrate, hein, bien sûr, que Trump est plutôt un homme fort dont l'Amérique a besoin. L'Amérique doit arrêter de s'excuser, ce qui était le cas sous Obama d'après ces gens-là. Et donc, le fait que Trump mette envoie des missiles et des actions décisives qui, en plus, n'ont pas de conséquences graves. Il n'y a pas d'escalade, il n'y a pas de guerre, etc.
Donc, et il n'y a pas eu de morts américains, voilà. Donc ça, c'était après les deux frappes iraniennes
malgré
contre
les
des
annonces,
bases en Irak.
Parce que les premières annonces iraniennes, c'était il y a 80 morts au moins. Les Américains disent on ne sait pas, on regarde. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai pensé que là, on était parti dans une escalade. Même si il n'y avait pas un besoin d'escalade des deux côtés, comment ça allait? Et finalement, il n'y a pas de mort, donc Trump s'en sort bien. Il est perçu comme étant décisif par son camp et au-delà. Évidemment, les démocrates considèrent qu'il est un fou dangereux. Donc, de ce point de vue-là,
il y a eu d'ailleurs un vote à la Chambre des représentants
pour, oui, mais qui reste
pour limiter les pouvoirs ou l'autonomie du président, quel qu'il soit d'ailleurs, pour déclencher ce type d'opération.
Oui, pour rétablir une forme de séparation des pouvoirs, d'équilibre des pouvoirs et amoindrir l'hyper-présidence issue de la guerre du Golfe, finalement.
Mais ça, c'est un point essentiel. On voit depuis la guerre du Golfe à quel point les institutions américaines sont infléchies dans le sens d'un renforcement du pouvoir présidentiel.
Oui, mais
Montesquieu doit se retourner dans sa tombe.
Oui, et les pères fondateurs, aussi. Encore plus. On en parle un petit peu avec l'impeachment et le rôle du Congrès dans la maîtrise un petit peu des dérives présidentielles. Mais finalement, cette évolution de la présidence, elle remonte à Roosevelt, la présidence impériale, et donc on est dans une sorte de continuum. La mainmise du Congrès sur la présidence, elle s'effrite tout au long du XXe siècle. Et là, ce qu'on remarque ces derniers temps, c'est que le Sénat, en particulier le Sénat républicain, est très aligné sur la Maison-Blanche.
Ah oui, il est complètement aux ordres. Alors, Mitch O'Connell, qui en est le patron, a dit « Ah ben moi, concernant la procédure de destitution, je fais ce que me dira la Maison-Blanche. »
C'est à relativiser, parce que sur la destitution, oui, ça c'est vrai. Mais sur la politique étrangère, il y a eu à plusieurs reprises des prises de position du Sénat, assez consensuelles d'ailleurs, contre la Maison-Blanche. Mais comme c'était relativement symbolique et que Trump a pu y mettre son veto et que le veto n'a pas été overridden, donc il faut une majorité de 2/3, ça n'a pas eu de conséquences graves.
Oui, mais il y a eu des prises de position. Notamment au moment où Donald Trump a lâché les Kurdes de Syrie.
Là, il y a eu plusieurs prises de position. Donc le Sénat n'est pas totalement aligné sur la Maison-Blanche, mais quand même relativement.
Amélie Chély, vu de Téhéran, jusqu'à quel point la campagne présidentielle américaine risque-t-elle d'alimenter sans frein l'engrenage et l'escalade?
Effectivement, d'après beaucoup d'experts sur place, il faut s'attendre à ce que beaucoup de manœuvres malveillantes soient fomentées depuis Téhéran jusqu'au élections présidentielles. En fait, la classe politique s'accorde sur le fait qu'ils doivent investir le rôle d'un acteur majeur dans les élections présidentielles américaines. D'ailleurs, quand il s'est agi de parler de vengeance, on s'est bien rendu compte aussi que dans cette volonté de jouer sur les élections américaines, l'Iran, alors on va mettre de côté, mais on en reparlera aussi, ce qui s'est passé avec l'avion ukrainien, essaie de jouer la carte de la légalité. C'est-à-dire que depuis la signature des accords, l'Iran a toujours montré que sa contrepartie était respectée. Aujourd'hui, quand on s'achemine vers une sortie des accords, on voit que c'est dans le cadre de ces mêmes accords qu'il y a un enrichissement qui est repris.
Donc là, vous parlez des accords nucléaires de 2015.
Voilà. On a la cinquième étape avant une sortie. Là, quand il y a eu aussi une nécessité de répondre à la mort de Qassem Soleimani, il y a eu l'invocation de l'article 59 de la charte de l'ONU qui justifie en fait une réponse par légitime défense. Donc on voit qu'ici, dans cette volonté d'agir dans le cadre des élections américaines, il va y avoir donc une multiplication des manœuvres malveillantes, mais tout en montrant patte blanche, c'est-à-dire tout en montrant de la part de la classe politique, hein, évidemment, de tout ce qui émane du gouvernement, pas forcément ce qui émane des gardiens de la Révolution, parce qu'on le voit, encore une fois, on a parlé de dissonance discursive, tout ce qui s'agissait de manœuvres malveillantes, par exemple, dans le détroit d'Ormuz, il y a une désolidarisation, du moins en vitrine, entre les prises de position des gardiens de la Révolution et celles du gouvernement. Donc c'est certainement à cela, pour l'instant, qu'on va devoir s'attendre, et c'est ce qu'on observe jusqu'à présent.
Et là, on voit que, à l'instant, le régime iranien déclare, ou plutôt, pour être plus précise, le commandant des forces aérospatiales des gardiens de la Révolution déclare que les États-Unis sont en partie responsables de la catastrophe de l'avion ukrainien, responsable pour avoir exacerbé les tensions. Clément Herme, on a souvent insisté sur l'affaiblissement relatif du camp, disons, raisonnable qu'incarnerait le président Rouhani par rapport aux gardiens de la Révolution d'un côté et par rapport au guide suprême de l'autre. Cette affaire ukrainienne, 176 morts, c'est quand même un embarras considérable pour le régime dans le climat actuel, avec sûrement une exacerbation des tensions internes.
Oui, c'est un drame national, En fait, certains experts de l'Iran parlent de Tchernobyl de l'Iran, c'est-à-dire le début de la fin de la République islamique, parce que ils peuvent pas proposer cet écart, si vous voulez, entre la propagande, par exemple, annoncer 80 morts, ça a été évoqué par notre collègue ici, finalement, il y a zéro mort. Donc, quelle crédibilité ont-ils après cet épisode sur le plan interne? Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'opinion publique iranienne a accès aux médias en persan qui sont basés à l'étranger, donc à une variété de sources d'informations.
Mais le régime était parvenu à couper complètement
Internet
au moment des
émeutes. Il y a une capacité encore à effectivement contrôler l'information dans des périodes courtes pour éviter l'explosion. Mais sur la longue durée, la population est informée et a des sources d'informations totalement contradictoires. Hein. Ils ont le point de vue monarchiste, le point de vue de la République islamique, le point de vue de la gauche iranienne. Donc tous ces exilés s'expriment. Donc la diaspora iranienne offre cette respiration démocratique, si on peut utiliser le mot pour l'Iran. En tout cas, il y a des sources d'informations diverses. Il y a une capacité à s'informer et c'est ça qui affaiblit progressivement la légitimité du régime, d'où l'acharnement du régime, il faut le noter, sur les familles de journalistes qui travaillent dans ces médias à l'intérieur, et cette campagne pour contrôler l'information et ce combat, ce qu'ils appellent la guerre psychologique. Donc, et c'est là la difficulté de la réponse politique que j'évoquais tout à l'heure, qui est la seule possible, parce qu'il n'y a pas de réponse militaire possible, il n'y a pas de réponse économique.
Enfin, il n'y a pas de réponse militaire, il y a quand même un arsenal iranien considérable.
C'est un suicide, c'est-à-dire que s'ils utilisent l'arsenal, les bombardements vont suivre et donc ils menaceraient leur existence. Donc
ils ont Trump en face.
Voilà, ils ont quelqu'un qui est imprévisible.
Ils ont Trump en face et Trump, il a besoin de montrer qu'il est décisif. Donc
il a d'ailleurs vanté dans ce discours il y a 3 jours.
Rhétorique.
C'est la américaine, oui.
Voilà, la puissance militaire américaine, ces merveilleux missiles.
Make America Great Again. Il est en campagne, il est là pour montrer que l'Amérique est de retour et que la période de la faiblesse d'Obama est révolue et que lui, c'est le nouveau Reagan. Et donc, si l'Iran envoie 10, il va envoyer 1000.
Le seul effet positif pour compléter, c'est la peur qui existe désormais, positive si on peut dire, dans la région, donc sur la rive arabe du Golfe Persique, d'une escalade. Parce que ça joue un rôle fondamental à Washington, le rôle des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, qui ne veulent pas d'une escalade militaire. Donc là, ils ont une capacité quand même de lobbying, et le Qatar également, qui a une capacité de lobbying considérable avec les pétrodollars, pour influencer à la fois le Congrès et l'establishment politique américain. Mais ils ont peur de la guerre, donc ils vont essayer de trouver un compromis avec l'Iran, parce qu'ils sont, comme ils le disent, ils sont des voisins géographiques. La même question se pose en Irak. Le fait d'appartenir au même espace crée des intérêts dans un moment où il y a peut-être un risque de guerre. Donc ça, c'est l'effet principal pour la République islamique, de pouvoir, si le groupe de Rouhani l'emporte, trouver peut-être un compromis avec ses voisins, même si ça sera très difficile. Parce que eux, leur modèle de prospérité économique n'est pas compatible avec une confrontation militaire entre l'Iran et les États-Unis. Donc ils ont un intérêt financier à court terme à éviter l'escalade.
Mais donc ça veut dire aussi que l'Irak devient un enjeu prioritaire pour Téhéran.
Ah oui, l'Irak, c'est la question de la sécurité nationale. Depuis la fin de la guerre Iran-Irak, l'Irak n'est pas du tout traité de la même manière, à la fois par la République islamique et par l'opinion publique, par rapport à la Syrie. L'Irak, c'est une question de survie, parce que il y a eu cette guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, et il y a un intérêt négatif de ne pas avoir un régime hostile à Bagdad. Et donc là, la priorité est effectivement là, et c'est là où l'Iran a le plus de force. Aussi parce que l'anti-américanisme est très présent. Donc c'est un match, si vous voulez, entre les sentiments anti-iraniens et les sentiments anti-américains.
Avec un premier ministre démissionnaire, un parlement qui
demande le départ des troupes américaines quand même. Ouais. Donc ça, c'est une victoire idéologique pour la République islamique. Et ils ont aussi des alliés chez les Kurdes. On a vu qu'au niveau du Kurdistan d'Irak, il y avait des commémorations pour Qassem Soleimani, le souvenir de l'aide apportée contre Daesh en 2014. Donc
Daesh,
Oui, à l'époque du Shah, c'était très compliqué. Mais...
Et Daesh, précisément, Clément, les cellules dites dormantes, mais qui sont...
Là, l'armée française a averti. Hein, quand j'étais à Bahreïn, j'ai rencontré des généraux français. Très clairement, la France refusait que le mandat de la coalition internationale soit détourné de la lutte contre Daesh vers la lutte contre l'Iran. Et ça, c'est une des grosses limites de la politique de Trump en termes d'efficacité, et c'est le risque principal. C'est à la fois la division avec les alliés européens sur la lutte commune contre Daesh.
Oui, mais là, les alliés européens, comme Pierre Grosser le disait tout à l'heure, sont impuissants. C'est-à-dire que oui, les troupes américaines en Irak sont aujourd'hui même préoccupées prioritairement par leur propre protection. Donc,
oui, donc il n'y a pas d'énergie qui peut être dépensée pour cela, mais il n'empêche que quand même ça crée une division, et ensuite sur le terrain ça crée une opportunité, un effet d'aubaine évident, parce que l'affaiblissement de l'État irakien, des structures ou de l'appareil sécuritaire au niveau national offre des vulnérabilités pour les groupes terroristes, c'est évident.
Pierre Gonser, en guise de conclusion provisoire ce matin, en tout cas, ce que l'on vérifie encore une fois à l'occasion de cette crise majeure, c'est que plus aucun mécanisme multilatéral ne fonctionne. le Conseil de sécurité de l'ONU est absent. Le paradoxe, et Amélie le rappelait, c'est que c'est Téhéran qui a invoqué un article de la Charte des Nations Unies pour argumenter sa propre position. Jusqu'à quel point est-ce que il faut désormais, et Donald Trump l'a déclaré dès qu'il est entré en fonction, constater que oui, ce système multipolaire est encore une fois affaibli.
Multilatéral, oui, ben on voit bien que ça...
Multipolaire, il tient bon.
Et déjà, et dans la région, enfin, il faut bien voir aussi que dans la région, on n'a jamais eu des structures régionales ou des structures de sécurité organisées. Hein. On n'a pas d'OSCE, même si l'OSCE aujourd'hui ne fonctionne pas spécialement bien. Mais il n'y a rien. Enfin, le Conseil de coopération du Golfe, c'était par rapport à la menace iranienne, etc. Donc, il n'y a pas une tradition multilatérale. Il n'y a pas non plus une tradition de polarisation, c'est-à-dire avec l'idée de deux camps bien organisés, c'est-à-dire que je ne dis pas que tout le monde discute avec tout le monde, mais pas loin, ce qui est évidemment quelque chose qui va à l'encontre de la vision un peu bouchiste des relations internationales du début des années 2000. Donc, on n'a pas perdu quelque chose parce qu'il n'y avait pas, grand-chose au départ. De la même façon, de dire que les Américains ont perdu la Syrie ou des choses comme ça, ils n'ont jamais eu la Syrie. Donc, je veux dire, il faut faire attention aussi des comparaisons que l'on peut faire. Les Américains ont eu leur moment au Moyen-Orient où ils ont eu de l'influence. C'est même pas à partir de 1980, mais c'est un peu au début des années 90. Mais ça n'a pas duré très très longtemps. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus l'ampleur des bouleversements. La grande nouveauté, c'est effectivement le retour de la Russie, dont on a déjà parlé. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et justement, la rencontre avec Merkel est quelque chose d'assez fascinant, parce qu'en gros, les Allemands vont sans doute demander à Poutine de faire quelque chose, hein, de calmer les Iraniens, etc. Les Russes vont demander en gros aux Européens d'isoler les Américains. Et donc, justement, d'avoir des discussions avec Téhéran. Et d'ailleurs.
Et les Chinois, quel est le.
Alors, pour le moment, ils sont extrêmement prudents, mais ils poussent.
Enfin, ils sont très préoccupés par ce qui se passe à Taïwan aujourd'hui avec l'élection présidentielle à Taïwan.
Oui, mais il faut bien voir que c'est toujours la même chose. On a tendance à se focaliser sur une crise. Par exemple, là, dans le Conseil européen, où il y a eu le commentaire de presse cette nuit.
Et le ministre des Affaires étrangères.
Oui, ben, finalement, le gros problème, c'est pas. Alors, numéro un, c'était pas l'Iran, c'était la Libye. On a aussi la question de la Libye sur les bras, avec Poutine qui a plutôt tendance aujourd'hui à la fois à être très présent, mais peut-être à pouvoir faire de la médiation. Donc, il faut bien imaginer toujours, en relations internationales, mais ça, vous l'avez montré à plusieurs reprises dans vos émissions, qu'il y a beaucoup, même si on se focalise sur un dossier, il y a beaucoup d'autres dossiers qui sont sur la table. Et donc, pour les Européens, à la limite, la Libye, c'est plus important, parce que s'il y a une implosion totale de la Libye, c'est des vagues de migrants, et donc, de nouveau, des problèmes sécuritaires tels qu'on les a, et de légitimité interne aussi pour un certain nombre de pays qui ont des problèmes par rapport à cela. Donc voilà, la Libye est plus importante. Donc on est maintenant avec un échiquier, enfin on a toujours été, mais encore plus aujourd'hui, avec un échiquier très très complexe. Du côté chinois, effectivement, il y a les élections de Taïwan, mais le Moyen-Orient, il faut bien voir qu'effectivement il y a des relations qui sont assez bonnes avec l'Iran, mais on a vu le voyage du roi d'Arabie Saoudite à Pékin, donc il y a aussi des bonnes relations avec ces pays-là. Donc
pivot très net saoudien vers
pivot très net. Moi, le terme pivot, l'avez déjà vu avec
oui,
Obama, où on parlait de pivot,
terme,
et ça n'a pas été tellement
pivoté. C'est un terme ces jours-ci qu'il vaut mieux éviter.
Donc, tout le monde parle de pivot. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pivote, je crois. C'est surtout ça. Ça va être une belle conclusion, ça.
C'est une excellente conclusion. Donc, merci à vous, Pierre Grosser. Vous avez publié chez Perrin cette année 89, l'année où le monde a basculé. Merci à vous, Clément Terme. Vous avez dirigé un ouvrage collectif qui va paraître le mois prochain, l'Iran et ses rivaux. Amélie Chély, vous avez écrit aux éditions du CERF l'Iran, autopsie du schisme politique, et En attendant le paradis. Laurie Kenton, auteur d'un atlas historique des États-Unis aux éditions Autrement cette année. Merci à Madame Mostafavi. Merci à Bruno Tertrais qui était avec nous par téléphone. Luc-Jean Reynaud était à la réalisation ce matin. Jean-Guilain Meige à la technique. Hugo Boursier a préparé cette émission. Et dans un instant, comme chaque samedi, j'en bafouille, voici Hervé Gardette pour parler politique.